imperfections. Alors un prédicateur, il est supposé amener une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ça ne veut pas dire que c'est toujours une nouvelle qui va dans le sens du poil. Mais c'est quelque chose qui est supposé nous édifier. On ne vient pas à l'église ou on ne vient pas dans une réunion pour recevoir des coups de batte de baseball sur la tête et repartir pire que ce qu'on est venu ou plus culpabilisé. On vient pour se décharger. On vient pour se rapprocher du cœur de Dieu. On vient pour écouter une bonne nouvelle. Et moi, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez quelle est la bonne nouvelle que je viens vous annoncer ce soir ? C'est que l'homme nouveau, il est arrivé. Quand le vin nouveau arrive, c'est placardé partout. Le vin nouveau est arrivé, vous avez vu ? Et moi, j'ai une bonne nouvelle ce soir. L'homme nouveau est arrivé. Alors quelqu'un posera peut-être la question, c'est qui l'homme nouveau ? C'est qui l'homme nouveau ? C'est toi, c'est moi. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, c'est toi l'homme, la femme, nouvelle. Les gens disent parfois, si j'arrivais à être un homme nouveau, une femme nouvelle, t'as pas essayé d'y arriver, tu es déjà. Il va falloir que tu apprennes à rentrer dans cette dimension et pour cela, il va falloir que tu apprennes à raisonner un homme nouveau. Rappelez-vous l'autre soir, ce que nous avons partagé, il y a un fou et un roi en chacun de nous. Et qui sont les personnes qui sont mariées ici ? Dans les femmes qui aident vraiment positivement leur mari sont celles qui apprennent à parler au roi, pas au fou. Et les maris aident vraiment leurs épouses quand ils apprennent à régulièrement parler à la reine plutôt qu'à la folle. Et si on passe toute notre vie avec un dialogue folle-fou, vous imaginez où on va ? Et malheureusement, parfois, quelqu'un qui n'a rien à faire au milieu d'un couple, lui, il a repéré une femme à qui on parle comme une folle, il a repéré la reine qui est en elle, il commence à parler à la reine. Et les problèmes commencent. Alors si vous ne voulez pas que quelqu'un vienne vous voler votre reine, parlez-lui comme à une reine. Si vous ne voulez pas que quelqu'un vienne vous voler votre mari, parlez-lui comme à un roi. Parce qu'après, il ne faudra pas venir dire « Ah ben, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. » Non. Le Seigneur a donné et toi, t'as perdu. Et nous le traitons un peu avec humour, mais ce n'est pas rigolo. Les situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui au sein du peuple de Dieu. Et Dieu veut se dresser contre cet esprit de divorce, cet esprit de séparation. Mais pour cela, il nous donne des règles dans sa parole. Alléluia. Nous devons avoir affaire à l'homme nouveau. Nous devons parler à un homme nouveau. Alors je sais qu'on n'arrive pas 24 heures sur 24 à cela. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de nos imperfections et de nos péchés. Mais nous avons besoin de travailler dans ce sens. De faire grandir en nous l'homme et la femme nouvelle. Combien il y a de femmes nouvelles ici ? Il y en a qui ne sont pas sûrs. Est-ce que vous êtes nés de nouveau, mesdames ? Est-ce que vous avez accepté un jour Jésus-Christ comme sauveur ? Le jour où vous l'avez fait, certainement, vous n'avez pas changé de corps. Et c'est ça notre problème. Lorsque nous passons dans les eaux du baptême, notre esprit est transformé, ou plus précisément, lorsque nous acceptons Christ comme sauveur, notre esprit est transformé, mais notre corps, il reste le même. À la rigueur, il veut continuer à faire les mêmes bêtises. On se retrouve avec tous ces complexes du passé qui sont toujours là, quelque part. Ils ne sont pas restés dans les eaux du baptême. Mais la Bible nous dit de nous revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Lorsque je sens une douleur et que le diable me souffle, « Ah, ça c'est la même douleur qu'avait ta mère avant d'attraper son cancer !» J'ai dit, « Non, non, l'homme nouveau, il ne marche pas comme ça. » Il ne va pas porter plus longtemps l'hérédité de ses pères. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos mains juste quelques instants et remercier Dieu d'avoir fait de nous de nouvelles créatures? Déjà en faisant cela, on se place en position d'homme et de femme nouveau. Allez, je voudrais vous entendre chacun ouvrir la voix, parce que l'homme nouveau, il se tait pas. Car la Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Amen.
C'est pas j'ai cru, c'est pourquoi je me suis tu. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors je voudrais que vous fassiez la réunion là pendant 5 minutes. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es la source de toute la vie. Eh bien, dites-moi, il n'est pas bavard, l'homme nouveau, hein? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Continuez encore quelques instants. Alléluia. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de prier à haute voix. Je voudrais vous entendre particulièrement. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour qui je suis aujourd'hui. Je te bénis parce que je peux me regarder dans la glace et je peux dire avec David, malgré toutes mes imperfections, je suis une merveilleuse créature. Si David pouvait dire je suis une merveilleuse créature, lui qui appartenait à une alliance ancienne, une alliance où il n'était pas né de nouveau parce que l'Esprit n'avait pas été répandu, à plus forte raison les fils et les filles de Dieu. Alors je voudrais entendre les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Corre à ma cavarabaya scendere. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Encore un petit moment, j'ai besoin de ranger mes feuilles. L'homme nouveau vient toujours au secours de ses amis, ok? Alors j'aimerais vous continuer à élever la voix, alléluia, et que vous me créez une ambiance dans laquelle il est agréable de prêcher. Alléluia. 11, 12. Prie plus fort, Michael.
Bon, alors, si deux ou trois s'assemblent, soit deux ou trois avec moi, j'ai le prion pour les feuilles.
Eh bien, je tiens à vous féliciter, frères et sœurs, ça marche. Oui, je veux vous parler ce soir de l'importance d'apprendre à connaître les autres selon l'esprit, à connaître Dieu selon l'esprit, et apprendre à se connaître soi-même selon l'esprit. Et à la fin de ce message, je partagerai plusieurs visions que le Seigneur m'a données pendant l'année 2007, parce que j'ai une bonne nouvelle encore à vous apporter, c'est que Dieu est un Dieu qui parle. Il a dit que le Saint-Esprit ne nous laisserait pas orphelins, ou plutôt que lui ne nous laisserait pas orphelins, parce qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, et que cet Esprit nous enseignera toutes choses, il nous conduira dans toute la vérité, il nous rappellera ce que Jésus a dit, il rendra témoignage de Christ, et donc de la vérité dans l'ensemble, dont les amis, nous ne sommes pas seuls ce soir. Et lorsque nous quittons ce lieu, nous ne nous retrouvons pas seuls. Le Saint-Esprit est un aide, dont on peut discuter avec lui. Je me promenais cet après-midi et j'avais une véritable discussion avec quelqu'un, avec les questions et avec les réponses. Et de plus en plus, nous devons marcher dans la révélation. La vie chrétienne doit être faite de révélation, pas seulement de déduction. On peut déduire certaines choses et comprendre ce que Dieu attend de nous, mais pour certaines situations, mes amis, si on n'a pas une révélation, on ne sait pas où on va. Ou on ne sait pas comment faire disparaître du chemin de notre destinée les problèmes que le diable y a placés. Et quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole, c'est-à-dire une parole qui est particulièrement ointe parce que c'est un réma de Dieu, et mon serviteur sera guéri.
Amen.
Donc on n'a pas besoin, ça dure ce qu'on fait, hein. Il y en a des chants, il y en a des paroles, mais en réalité, une seule de ces paroles suffit pour changer ta vie et pour changer ma vie. Alors je serais bien bête de sortir ce soir sans avoir récupéré sous le bras une de ces pépites, comme dit mon épouse. Il y a des paroles qui sont annoncées, chantées, dont nous témoignons ce soir. Ce sont des pépites qui se trouvent au milieu de ces paroles. Et quand je repars chez moi avec cette pépite sous le bras, ma vie, elle change. Et j'aurai l'occasion de parler de cela après-demain matin. Le miracle se déclenche toujours par une parole que Dieu nous donne. On agit sur une parole qu'il nous donne, non pas juste sur une impression qu'on a, mais sur une parole précise que Dieu nous donne par son esprit. Et là, on déclenche un miracle. Et je vous donnerai le témoignage de cette belle guitare-là. Un jour, le Seigneur m'a dit de faire un acte particulier de foi. Et 10 jours après, j'ai vu Dieu pourvoir pour avoir une telle guitare. Alors venez après demain, vous verrez, ça vaut le coup. Mais je vous enseignerai aussi comment vous pouvez vous mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour semer quelque chose qui va produire un miracle dans votre propre vie. Amen.
Amen.
Parce que mon expérience n'a de valeur que dans la mesure où elle vous aide, vous, à provoquer un miracle dans votre propre vie.
Alléluia.
Vous ne pouvez pas vous appuyer sur mon témoignage. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur mon expérience pensant que vous allez vivre mon expérience à ma place. Pas plus que je ne le peux avec vous. Vous êtes d'accord? Et ce qui est bon pour un n'est pas obligatoirement bon pour l'autre. Mais sur le témoignage de quelqu'un, on peut se mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour soi personnellement, recevoir une de ses paroles et quelque chose qu'on attend peut-être depuis des années, le voir se débloquer dans l'après-midi ou dans la semaine. Nous devons apprendre à connaître Dieu, à connaître les autres, à nous connaître selon l'Esprit. Une cause de nombreux problèmes au sein du corps de Christ est de développer des relations avec les autres qui sont bâties sur une vision et des raisonnements charnels. Jésus a dit que l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous êtes tous venus avec votre esprit ?
Amen.
Seulement, vous avez un problème, c'est que vous avez été obligé de venir avec votre chair aussi. Alors, il va y avoir pendant toute la réunion des interférences. C'est un principe, la chair est faible. Si nous bâtissons nos relations, qu'elles soient dans l'église, qu'elles soient des relations de couple ou des relations d'amitié, en regardant les gens selon la chair, nous allons avoir une relation faible parce que bâtie sur la faiblesse. Qu'est-ce que ça signifie encore que la chair est faible? Que la chair ne peut parvenir à la hauteur des attentes que l'on a. Elle n'est pas constante, elle est imparfaite, elle freine l'esprit. Je me lève un matin, j'ai l'impression d'avoir mangé du lion du Judas, je veux sauver le monde entier. Et j'ai l'impression que ça va durer cet état pendant 15 jours. Le lendemain, je me lève, si je m'écoute, je veux me suicider. Nous sommes des bipolaires spirituels si nous ne veillons pas. Mais la foi peut nous aider à continuer à nous tenir sur la montagne, dans notre tête, même quand nous passons dans le désert, dans notre chair. À cause de la chair, on décevra toujours quelqu'un à un moment donné. Et on sera déçu. Si vous comptez que Claude Payan ne vous déçoive pas, vous mettez sur mes épaules un joug que je ne peux porter. Alors autant que je vous déçoive de suite. À la fin de la réunion, venez me voir, je vais vite vous décevoir. Comme ça, on va pouvoir passer une fin de séminaire tranquille, sans attente utopique. Alléluia. Quand un couple, ils ne se sont pas encore déçus les deux, aïe, aïe, aïe. Alors autant se décevoir le plus vite possible. Après, on peut vraiment bâtir sur la réalité, amen, et pas sur l'utopie. Toute relation bâtie seulement sur la chair se heurtera à un moment donné à ces tristes réalités. La chair ne sert de rien, jusqu'à aller à dire Jésus. Vous ne pouvez développer une relation de valeur avec les gens qui soient bâtis sur des attentes utopiques ou seulement sur un regard extérieur. Toute personne qui n'a pas la possibilité de voir plus loin que la chair et de développer des relations au-delà de la chair est condamnée à la déception, l'incompréhension et la division. Je suis sûr que vous ne savez pas qui est vraiment la personne qui se trouve devant vous. Moi, j'apprends à la connaître encore de plus en plus. Et en regardant selon la chair, je ne peux pas vraiment savoir qui sont les vaillants guerriers qui se trouvent là. Mais avec la révélation du Saint-Esprit, je peux voir le roi, je peux voir la reine, je peux voir le vaillant guerrier au lieu de voir la personne faible. Parce qu'extérieurement, les vaillants guerriers n'ont pas toujours l'air de vaillants guerriers. Dites-moi, Jacob, il a combattu contre un ange, et à cause de ce combat, son nom a été changé en prince de Dieu. Mais lorsqu'il est ressorti de la bataille, il n'avait pas l'air d'un vaillant héros. Il y a des gens qui auraient dit, c'est lui le gars qui va faire un réveil? C'est lui le gars qui va être le père des nations? Alors regardez la personne qui est à côté de vous là ce soir. Peut-être elle ne paye pas de mine. Peut-être qu'il y a déjà eu un jugement selon la chair, cette personne. Tu as dit, waouh! Elle débarque au séminaire avec une robe verte, avec des fleurs jaunes. Elle n'a pas de goût. Comment Dieu il peut l'utiliser? Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec une robe verte et des fleurs jaunes, mais au cas où ça tomberait, c'est donc une parole de connaissance pour vous ce soir. Paul dans Romains 8:6 le dit sous cette forme, l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Quand j'attache mes pensées au jugement de la chair, je vais à la mort. Ma propre femme, je ne vais pas pouvoir reconnaître que c'est une vaillante guerrière. Elle ne va pas pouvoir le reconnaître en moi. Nous avons besoin de voir plus loin. La Bible dit que Jésus ne jugeait point sur l'apparence, mais il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. La Bible dit que les péchés de certains hommes, par exemple, dans 1 Timothée 5:24, sont manifestes même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc vous voyez, parfois on peut avoir un jugement sur les gens, il est complètement faux. On a l'impression qu'on peut leur donner, on a cette expression dans le sud, le bon Dieu sans confession. Et puis on apprend par la suite à connaître ces gens. Moi en tant que pasteur, j'en sais quelque chose. Oh, il y a des gens qui avaient l'air si spirituels dans mon église. Il y avait un gars, il débarquait à la réunion. Et il riait, il éclatait de rire chaque fois. Je me disais, oh, quelle belle transformation, Seigneur, tu le touches par ton esprit, tu le remplis de joie. Au bout de quelques temps, je me suis rendu compte qu'il fumait un pétard chaque fois avant de venir à la réunion. Alors j'ai dit, ah, il va surmonter. C'est... Allez, maintenant il est délivré du pétard. Maintenant, il va devenir un sujet d'exhortation ou de bénédiction pour les autres. Un jour, il a subtilisé la carte bleue d'une sœur dans l'église et il lui a vidé son compte en banque. On a besoin du jugement de Dieu. Par contre, il y a des gens qui ne payent pas de mine, il y a des gens dont on risque de dire, « Oh, celui-là, alors, il est long à avancer. Hein? » Et puis, le Saint-Esprit nous dit, « Non, c'est un bon cheval, il faut miser dessus. » C'est un serviteur de Dieu, une femme de Dieu en devenir. Vous avez remarqué que dans la vie, les choses et les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Certaines personnes qui semblent si douces, calmes en public, sont parfois insupportables à la maison. Oh, il y a des gens qui ont l'air super spirituels à l'église. Ils ne crient pas. Ils arrivent à la maison, ils crient comme des malades. Viens crier à l'église et sois gentil à la maison. Il y a des gens, ils sont choqués, ils rentrent dans nos assemblées. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis ils débarquent sur un terrain de foule. Ouah! C'est bizarre quand même. Même dans un couple, parfois, celui qui semble être dominé à vue humaine est en fait le dominant ou vice-versa. Une personne semble pleine d'humilité, toujours d'accord avec vous, mais le jour où vous la reprenez, elle devient une furie. On a eu un peu d'expérience ce matin. Lorsque Samuel est venu chercher le futur roi dont Dieu lui avait parlé, il a fait défiler tous les fils d'Isaïe et la Bible dit qu'il a commencé tout prophète qu'il était. Donc quel que soit le don de Dieu qui le tient, si tu ne le mets pas en action, tu peux être dans la chair au même point que tous les autres. Hello. Le discernement, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus naturellement. Imaginez Jésus, quand même, il a passé 33 ans sur cette terre. Il a habité quelque part avec ses parents. Vous êtes d'accord que Jésus, c'était Dieu sur terre? Dans là où il habitait, il devait avoir des voisins de palier. Il y a des gens peut-être qui habitaient au-dessus, ils avaient Dieu au rez-de-chaussée et ils ne s'en sont pas rendus compte. Parce que Isaïe nous dit, qui a cru? Amen. Alors ce soir, tu peux avoir le meilleur prédicateur au monde, tu peux passer complètement à côté de ce que Dieu a pour toi. Parce que naturellement, notre chair ne va pas vers les choses de Dieu. C'est très facile pour elle de s'en éloigner. Vous avez vu dans ce monde que la bénédiction, c'est pas toujours si facile à faire venir. Hein? Par contre, les problèmes, ils arrivent tout seuls. Il y a une seule chose à faire pour que les problèmes arrivent, c'est te lever le matin. Pas besoin de prier pour ça. Vous avez remarqué? Bienvenue sur terre, hein? Mon fils, souvent, il revient de l'école. Ah, c'était dur. Je lui dis, bienvenue sur terre. Certains chrétiens me disent, oh, dans l'église, oh, je m'attendais à tomber dans la grande famille d'amour de Jésus. Tu peux pas savoir ce qu'on m'a fait. Je dis, je veux pas savoir. Bienvenue dans l'église. L'Écriture nous dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsque Samuel a fait défiler tous les fils d'Ésaïe, il a regardé à leur extérieur. Il n'a pas su reconnaître le futur roi que Dieu appelait. Il ne faut pas qu'on fasse la même erreur. Spécialement dans le ministère, on peut faire de grosses erreurs. Nos jugements ne peuvent être basés sur ce que l'homme naturel, notre vieil homme en d'autres termes, voit et comprend. Ils doivent l'être de plus en plus sur ce que nous ressentons, comprenons, entendons dans notre esprit. Je voudrais vous dire que beaucoup des messages que je partage lors de ces séminaires, c'est juste une voix souvent que j'ai entendue dans mon esprit. Parfois je ne savais même pas jusqu'où j'allais aller dans ce message. Et au fur et à mesure que j'écris, je reçois les réponses aux questions que je me posais avant de commencer le message. Il nous est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Simplement il nous dit, va d'abord avec la force que tu as. Et Dieu te rencontrera pendant la marche. Et il y a une parole ce soir pour plusieurs personnes. Tu attends que Dieu ait fini le travail avant de te mettre en route. Et Dieu attend qu'il ait commencé à te mettre en route pour pouvoir finir le travail. Parce qu'il faut que tu ailles avec la force que tu as. Dieu ne te demande pas d'aller avec la force que tu n'as pas. Lorsqu'il y a une offrande, personne ne te demande de venir déposer des lingots d'or. À moins que tu en aies. Mais par le discernement des esprits ce soir, je perçois qu'il n'y a pas beaucoup qui en ont. Et si j'ai tort, venez vite me reprendre tout à l'heure, mais n'oubliez pas le lingot d'or. J'accepterai volontiers mon erreur. Alors nous devons comprendre aussi que certaines choses qui nous paraissent très importantes ici-bas ne le sont pas dans le monde spirituel. Certaines choses, par contre, qui peuvent nous sembler insignifiantes, pèsent lourd dans le monde spirituel. Peut-être que soulager ta femme dont le lave-vaisselle est tombé en panne, peut-être un acte puissant, plus que ce que tu peux faire en public à l'église, qui sera inscrit dans les livres du ciel. Et là, tu es en train de dire, « Ah, Satan a fait tomber en panne le lave-vaisselle. » Non, c'est peut-être Dieu pour que tu manifestes, alléluia, ton amour pour ton conjoint. Il y en a, ils veulent tellement pas faire la vaisselle que dans ce cas, ils disent, je vais en acheter un autre de la vaisselle. Dans l'échelle des valeurs du monde spirituel n'est pas la même que celle de ce monde. Alors, à quel monde nous donnons priorité? Frères et sœurs, rappelez-vous de cela. Nous sommes de plus en plus appelés à avoir un pied dans chaque monde. Il faut à tout prix garder un pied ici-bas. Mais il nous faut avoir un pied dans le monde spirituel. Et de plus en plus, nous aurons des visions, nous verrons des anges, parce que nous aurons un pied dans le monde spirituel. Les chrétiens sont des gens qui doivent vivre de plus en plus dans les deux mondes. Hello? La Bible dit d'ailleurs que Dieu ne fait rien sans révéler ses mystères à ses serviteurs, les prophètes. Il ne doit rien arriver de très important qu'on apprend aux nouvelles par PPDA. On doit le savoir avant. Hello? Et soit on se met devant les nouvelles, là, je le savais déjà. Alléluia. On peut passer à côté de la présence, de la réponse, de la direction de Dieu alors qu'elle est sous notre nez, quand nous ne voyons pas les choses avec les yeux de l'esprit. Il y a des gens, parfois ils ont côtoyé une personne pendant des années, et puis un jour ils se lèvent, leurs yeux s'ouvrent et ils disent « Mais ça, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie !» Et ce jour-là, ils regardent la personne qu'ils ont connue depuis des années avec d'autres yeux. On connaît tous des cas comme ça. Eh bien, peut-être que s'il avait ouvert ses yeux avant, il aurait gagné du temps. Naaman a failli passer à côté de sa guérison parce qu'il imaginait que les choses devaient se faire selon sa manière de voir à lui. Naaman, il s'est dit, le prophète va sortir, il va étendre sa main. Michael Réal va dire, avance, j'ai une parole pour toi. Il va étendre sa main. Et puis le prophète, il envoie son serviteur. Alors vous imaginez, Dieu veut toujours nous ramener à l'humilité. Et Naaman, il a failli passer à côté de sa bénédiction, si ce n'était une petite fille, l'humilité là encore, qui est venue le trouver, lui a dit, mais le prophète, il ne te demande quand même pas de faire quelque chose de compliqué. Recevoir la bénédiction ne doit pas être si compliqué que ça. Lorsqu'on est dans l'esprit, dans notre priorité, nous l'avons vu l'autre soir, ne doit donc pas être de chercher avant tout à être béni, mais de chercher à être des hommes et des femmes de l'esprit. Et des hommes et des femmes de l'esprit, au bout d'un moment, marchent naturellement dans la bénédiction. Et c'est pourquoi Michael a écrit un livre poursuivi par sa grâce. Je te fais la pub, hein. Parce que ce verset des psaumes nous dit que Dieu ne veut pas seulement qu'on poursuive la grâce, mais il nous aime tellement qu'il veut nous poursuivre par sa grâce. Dans Malachie, il est dit que Dieu veut nous bénir au point qu'on en a tellement qu'on ne peut pas le contenir. Et qui est intéressé par ce genre de bénédiction-là? Tu sais, tu arrives à l'église le dimanche matin, oh, ouf, qu'est-ce qu'il y a, frère? J'ai été trop béni cette semaine. C'est souvent le contraire qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, frère, vous ne pouvez pas prier pour moi. Et quand vous êtes trop béni, vous ne pouvez pas tout garder, il faut en donner aux autres. À la rigueur, ils vous soulagent quand ils prennent de votre bénédiction. C'est pas beau, ça? Amen. Alléluia. À Nazareth, Jésus ne put faire beaucoup de miracles car les gens étaient incrédules. Ils ne voyaient ni ne comprenaient qui il était. Peut-être qu'ils se sont dit, qui c'est cette espèce de hippie, là? Donc connaître les gens par l'esprit n'est pas quelque chose d'inné chez nous, qui nous tombe naturellement dessus comme cela. C'est quelque chose qui se travaille. On peut travailler notre esprit et la sensibilité de notre esprit. Pierre a été le premier des disciples à voir par l'esprit que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit que cela lui avait été révélé par le Père. Est-ce qu'il y aurait une bouteille d'eau par ici? Mais c'est le même Pierre qui, quelques jours après, la Bible ne nous précise pas, il avait une pensée humaine qui était bonne. Jésus lui a dit qu'il allait être crucifié. Et Pierre, qui met Jésus, lui a dit, « Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, « Ah, ça fait plaisir les bons copains. » Il lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Donc vous voyez, on peut avoir des tas de bonnes pensées qui ne sont pas obligatoirement les pensées de Dieu. D'ailleurs, dans l'église, souvent, on n'a pas des problèmes avec les gens qui veulent faire mal. Le plus de problèmes qu'on a, c'est avec les gens qui veulent faire bien. Il y a des tas de gens qui veulent faire bien, mais ce qu'ils veulent faire n'est pas obligatoirement ce que Dieu leur a demandé de faire. Il y a le bien de la chair, et puis il y a le bien qui vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Alors, une des priorités des enseignements de l'Écriture est de connaître Christ de mieux en mieux, et de le connaître selon l'Esprit. Car c'est notre esprit qui est né de nouveau, donc c'est notre esprit qui peut correctement avoir contact avec son esprit. Cela est indissociable d'un discernement de l'esprit, de recevoir des révélations d'en haut. Et il en est de même pour connaître les autres. Quand vous regardez donc à certaines personnes qui ne payent pas de mine, mais qui aiment Dieu de tout leur cœur, au point peut-être de donner leur vie pour lui, est-ce que vous voyez donc quelqu'un qui ne paye pas de mine ou vous voyez un vaillant guerrier ? Il faut qu'on apprenne à regarder les autres. Et vous devez commencer à apprendre à regarder avec les yeux de l'esprit les gens qui vous entourent. Vos enfants. Il faut que vous appreniez à leur parler comme à des petits princes. Ils peuvent revenir de l'école avec un zéro. D'accord, vous n'allez pas les féliciter. Mais il reste un petit prince. Et il reste aimé. Et il a le droit de continuer à le savoir et à l'entendre. Parce que nous étions à Sevrier, quelqu'un s'est avancé, il m'a dit « Non, moi j'ai pas de problème avec la reine, avec ma femme ça va bien, mais je voudrais que vous priez pour moi pour que j'apprenne à parler au petit prince. Parce qu'avec mon fils, quand on parle, on n'arrive jamais à se rejoindre. Dieu veut nous aider dans notre communication avec les autres. Et pour cela, il veut changer notre regard sur les autres. D'ailleurs, la Bible dit que l'amour cherche le meilleur chez chacun. » Il ne va pas d'abord chercher ce qui ne va pas, il va d'abord chercher le meilleur. Amen. D'ailleurs, vous avez vu dans l'Apocalypse, lorsque Jésus vient trouver les sept églises, il y a des choses qui ne vont pas dans ces églises. Pourtant, il ne débarque pas en disant « Il y a le souk dans l'église !» Il commence par dire à chacun « Je suis content avec toi parce qu'il y a ça et ça et ça qui marche. » Et après, il passe au négatif. Alors, je le dis souvent, nous sommes chacun responsables des gens que nous laissons nous exhorter. Nous devons choisir des personnes qui sont capables de nous reprendre, mais nous les choisissons parce qu'elles sont capables de voir ce qui est bon en nous. Si ce sont des personnes qui ne sont capables que de voir ce qui ne va pas chez nous, elles n'ont pas à avoir le droit de nous exhorter. Elles n'ont pas le droit de venir avec une belle prophétie ou avec un certain « l'Éternel m'a dit ». C'est à vous de choisir qui doit vous exhorter parce que vous sentez de l'amour chez les gens. Et vous sentez que Dieu les a mis sur votre chemin parce que le diable met beaucoup de gens bien intentionnés sur notre chemin pour nous démonter au nom de Jésus avec les versets bibliques à la clé en plus. Est-ce que vous me suivez? Vous avez une autorité, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous ne sommes pas conduits par les prophètes, même s'il nous faut de plus en plus de prophètes, alléluia, nous ne sommes pas conduits par les prophéties, même s'il nous faut de plus en plus de prophéties, nous sommes supposés être conduits par l'Esprit de Dieu. Et moi, je ne permets pas au premier venu de venir me dire, l'Éternel m'a dit, tu dois faire ceci, tu dois changer cela. Amen. Mais si j'ai confiance dans des personnes, alors ces personnes me servent de garde-fou, je leur sers de garde-fou, et nous avons tous besoin de garde-fou. Amen. Mais la dernière chose que je veux, c'est que ces personnes soient des gens religieux, inspiré par un esprit qui est loin d'être toujours le Saint-Esprit. Est-ce que vous recevez quelque chose? Peut-être que vous pouvez rentrer chez vous et changer la liste des gens à qui vous permettez de vous exhorter. Hello! Paul, le grand apôtre, était méprisé par plusieurs Corinthiens à cause du décalage qui existait entre son aspect extérieur et sa grande connaissance et sagesse. Dans 2 Corinthiens 10:10, il leur écrit et dit « On dit que mes lettres sont sévères et fortes, mais que présent en personne je suis faible et que ma parole est méprisable. » Alors que ces mêmes Corinthiens, ils acceptaient d'être plumés, permettez-moi l'expression, d'être abusés par des pseudo-apôtres. Et parce que ces gens, ils en imposaient. Parce qu'ils regardaient avec les yeux de la chair. Ils avaient une certaine conception de ce qu'est le serviteur de Dieu. Le prophète, les gens qui courent après les prophètes, ils aiment bien être impressionnés. Il faut que le gars les regarde dans le blanc de l'œil là et leur donne l'impression qu'il a percé tout ce qui est au fond. Ah, je suis allé voir le prophète. Malheureusement, une bonne partie des prophètes qui exercent au sein des églises en France sont loin d'être des prophètes de Dieu. qui édifie le peuple, croyez-moi. Donc nous avons besoin d'avoir un jugement juste. Hello ? Et voir plus loin. Nous devons nous connaître nous-mêmes aussi selon l'esprit. Une personne née de nouveau qui se dévalue ou accepte qu'on la dévalue n'a certainement pas le regard de l'esprit sur elle. Et si elle ne change pas, elle n'ira pas bien loin. Lorsque tu te regardes dans la glace demain matin, est-ce que tu vois le roi ? Ou tu vois le gars en pyjama ? Il faut te regarder, te raser avec dignité. Il ne faut pas faire... Non, c'est une épée qui tient la main. Ok ? Bon. Mais vas-y, doucement, avec une épée, on peut se couper la tête. Hein? Chacun de nous est dans l'esprit quelque chose de très différent de ce qu'il est. L'apôtre Paul toujours nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il y a une grande puissance qui est disponible pour nous et qui est en nous, mais si on regarde le vase extérieur, souvent on se dit donc, comment elle va pouvoir sortir ? Moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, elle a l'intention de sortir dans la vie de tous les jours. Alors on a passé un temps à prier et il n'y a rien de mal. Seigneur, remplis-moi, c'est bien. Mais il y a le Saint-Esprit qui crie aussi, je veux sortir. Il y a un temps pour se remplir, il y a un temps pour laisser couler ce qui est en nous. Et mettre les autres au bénéfice, alléluia, de cette bénédiction, du plein qu'on a fait de Saint-Esprit. Nous sommes des vases de terre, mais est-ce que nous arrivons à voir derrière cela ? L'extérieur et l'intérieur de l'homme suivent deux chemins bien différents. Dans 2 Corinthiens 4, 16, il est dit, « Si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. » Dans la relation que tu établis avec ton épouse, avec tes amis dans le ministère, avec les personnes dans l'église, elle a intérêt d'être bâtie sur l'être intérieur. Sinon, c'est une relation qui va donc se détériorer, parce que l'être extérieur se détériore de jour en jour. Si on ne se fie qu'à l'extérieur, à nos imperfections, à nos maladresses, on a parfois envie de chanter avec Souchon « Je suis bidon ». Mais si on regarde dans notre être intérieur, notre autre nouveau, waouh, il se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes dans ce monde, lorsqu'ils arrivent à un certain âge, vous savez, parce qu'ils vivent que pour l'extérieur, ils changent de conjoint. Ils arrivent à la quarantaine, bon, c'est le moment de changer, comme la voiture, vous savez. Parce que leur amour est bâti sur l'extérieur. Ça a été soit belle et tais-toi pendant des années, quand tu es plus belle, eh bien, il faut te changer. La femme, elle a marié un gars qui avait au ventre des tablettes de chocolat, aujourd'hui c'est du Nutella. Et elle a envie de changer. Vous voyez, si on bâtit sur l'extérieur, l'extérieur il se détruit. À un moment donné, on va être stoppé dans notre course. Par contre, si on bâtit sur l'intérieur nos relations avec les gens, ça va aller de gloire en gloire. Jusque dans le royaume de Dieu. Parce que l'esprit ne meurt plus. Amen. Une relation de couple, elle n'est forte que si deux êtres intérieurs ont établi un lien puissant. Sur cette base, alors les êtres extérieurs, bien sûr, il faut qu'ils s'entendent aussi. Tu ne peux pas dire à ta femme, eh ben dis donc, je me suis marié avec toi parce que j'aime bien ton intérieur. Hein? Mais extérieurement, alors, t'es moche. Hein? Non. Il faut que ce soit en harmonie, on est bien d'accord. Ah oui, on rigole, mais vous savez, des excès de spiritualité, ça ne manque pas au sein du corps de Christ. Dieu m'a dit, je dois me marier avec lui, je dois me marier avec elle. J'en ai vraiment pas envie, mais plus que Dieu le dit. Eh bien, Dieu, tu sais, la moindre des choses, c'est qu'il te donne de l'amour quand même. Lorsqu'il te demande de te marier avec quelqu'un, alléluia. Et qu'il te donne une attirance extérieure aussi, on est bien d'accord ? Simplement, l'intérieur doit venir avant l'extérieur. Il y a des gens qui ont marié des personnes pour l'extérieur, quand ils ont appris à connaître l'intérieur, ils n'en voulaient plus. Hello ? C'est un homme qui râlait, il boudait Dieu parce qu'il avait prié pour avoir une certaine femme et Dieu ne lui avait pas donné pendant des années, il a boudé Dieu, tu ne m'as pas exaucé. Des années après, il a rencontré cette femme, il allait boire un café avec, quand il a écouté parler, au bout d'une demi-heure, il a rendu grâce à Dieu de ne pas lui avoir donné. Hello. Est-ce que nous voyons bien dans l'esprit et de plus en plus, de mieux en mieux, comme l'ange de l'Éternel qui est apparu à Gédéon et lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et dites-moi, à l'instant, il n'y a rien qui marchait pour Gédéon. Quand il n'y a rien qui marche dans notre vie, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, on a l'impression d'être un vaillant zéro, mais certainement pas un vaillant héros, vous êtes d'accord ? Et pourtant, Dieu, il continue à nous voir comme un vaillant héros. Lorsqu'il a dit à Ézéchiel, regarde cette vallée des ossements, qu'est-ce que tu vois humainement parlant ? Ézéchiel, il a vu un cimetière. Et le Seigneur lui a dit, est-ce que tu penses que ces os vont revivre ? Et Ézéchiel, il n'a pas voulu se mouiller. C'est toi qui sais, Seigneur. Et Dieu lui a dit, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas commencer à parler différemment. Arrête de dire l'église, il n'y a que des problèmes dans l'église. C'est pas comme ça que tu vas l'aider. C'est en commençant à regarder l'église que Jésus aime, pour qui il a donné sa vie, et en qui il croit encore parce qu'il a prévu de venir la chercher.
Amen.
Amen. Ézéchiel, il commence à parler différemment, il prophétise sur les eaux. Et c'est seulement lorsqu'il est allé avec la force qu'il a, qu'il a commencé à parler différemment et commencer à voir les choses comme Dieu les voit, que les eaux ont commencé à se transformer en une armée puissante. Parce que Dieu, bien avant cela, il voyait déjà une armée puissante. Alors c'est ça la question. Qu'est-ce que tu vois dans l'église aujourd'hui ? Est-ce que tu vois une armée puissante qui est en marche, en préparation ? Hello ? Ou est-ce que tu vois tous les problèmes, toutes les souffrances que tu as eues ? Mais on a tous souffert ! Moi, je pars du principe que nos souffrances ne doivent pas devenir une excuse pour faire souffrir les autres.
Amen.
Hello ! Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Une réunion d'apitoiement sur soi ? Qui a le plus souffert ? Moi ? Non, moi ? Non, moi ! Gagné ! Hello ! Passons à autre chose maintenant. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Pour qu'on soit utile pour le royaume. Alléluia ! Et pour qu'on devienne un sujet de bénédiction pour ceux-mêmes éventuellement qui nous ont fait souffrir comme Joseph l'a fait pour sa famille. Wouh ! C'est tout ce que ça vous fait ? Tourne-toi vers ton voisin et dis, je ne regrette pas d'être venu ce soir. Et si tu ne peux pas le faire, pars en courant. Est-ce que vous n'avez pas deux visions de vous ? Une qui vous ramène chaque jour à vos imperfections, à la dure réalité de ce monde, et une autre qui est glorieuse. Que certaines situations, certaines prières, j'espère ce message, certaines musiques stimulent et le guerrier commence à sortir. Lorsque tu vas dans ta voiture, à la fin de la réunion, c'est plus une voiture, c'est un char. Quand tu prends ton stylo pour écrire, tu le sors comme ça. Vous vous sentez petit, incapable et soudain. Alors, lorsque vous lisez quelque chose dans la Bible, un de ces rémas, une de ces pépites qui vous sautent aux yeux, alors que vous priez ou que vous méditez sur les voies de Dieu, ou vous promenez dans la nature, ou alors une musique, là oui, elle vous remue de l'intérieur et soudain vous vous voyez en vaillant guerrier, il n'y a rien qui ne vous fait peur. Ça vous arrive ça régulièrement ? J'espère. Il n'y a plus rien qui vous fait peur. 10 minutes après, vous ne saviez plus comment régler la situation. Il y avait une grande montagne. Là, il y a un tas de sable. J'ai eu 3 visions complémentaires pendant l'année 2007. Parce que la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Quand j'aurai des songes, je commencerai à m'inquiéter un peu plus. J'ai eu 3 visions complémentaires pendant l'année 2007. Et je veux les exposer ici. Je pense que ça peut encourager plusieurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant de moi que je veux parler dans ces visions, mais de nous. Et d'ailleurs, les partager n'a de valeur que dans la mesure où elles vous aident, vous, à vous identifier. par rapport à Dieu, par rapport à ses temps et par rapport à l'appel qu'il a placé sur votre vie. Parce que toute personne née de nouveau est quelqu'un de fantastique. Dieu n'a jamais recréé de pauvres types en Jésus-Christ. Hello! On était tous des pauvres types avant de rencontrer le Seigneur. Mais si nous sommes nés de nouveau, même si les obstacles de la vie nous font sentir pas à la hauteur, Dieu il nous regarde comme de vaillants héros. Et pour lui, nous avons de la valeur. Nous sommes recréés en Jésus-Christ. Nous sommes des êtres extraordinaires. Ton conjoint est un être extraordinaire. Tes enfants sont des êtres extraordinaires. Tes parents sont des êtres extraordinaires s'ils connaissent Jésus-Christ. Ton pasteur est un être extraordinaire. C'est pourquoi tu dois le respecter. Tu dois faire attention, même si tout ce qu'il fait n'est pas parfait. Alléluia. Amen. La première vision, je voyais Jésus chevaucher. Alors c'était peut-être lors de son retour, je ne voyais pas tous les détails. Et il y avait plusieurs chevaliers qui chevauchaient à ses côtés. La Bible nous dit que lorsque Jésus reviendra, ses saints reviendront avec lui. On aura une belle vue de là-haut. Et ces chevaliers, ils avaient un aspect très noble qui me donnait envie. Et je ne sais pas pourquoi, l'un d'eux, il a attiré mon regard. Je n'arrivais pas à défaire mon regard de celui-là, là. Il avait la tête tournée. Et je regardais, et d'un coup, il a tourné la tête, et je me suis rendu compte que c'était moi. Intéressant. Vous ne voulez pas demander au Seigneur de vous montrer qui vous êtes dans l'esprit ? C'est agréable d'avoir ce genre de vision. Ce n'est pas une vision faite de toutes pièces. Je ne savais pas qui était ce gars. Et je n'arrivais pas à comprendre à l'instant pourquoi mon attention était centrée sur celui-là et pas sur les autres. Nous sommes tous dans le monde spirituel, quelque chose, quelqu'un de bien différent de ce qui paraît dans ce monde matériel. Et je voudrais vous dire qu'en recevoir de temps en temps une vision précise ne peut que nous booster. Waouh! Vous savez, quand j'ai envie de baisser les épaules là, et sous le poids de certains fardeaux, certaines choses désagréables qui arrivent, je repense à ce vaillant héros, ce vaillant guerrier, waouh, je remonte sur mon cheval. Un autre jour, j'étais parmi plusieurs chevaliers dans un canyon, c'était un canyon, comme dans les westerns, vous savez. Je pourrais vous décrire les couleurs tellement c'était précis. Un canyon, ça symbolisait la solitude. Mais Jésus était sur un rocher. Voilà aussi, c'était clair, il était là sur un rocher. Et on était un groupe de chevaliers. Et Jésus a commencé à poser une première question à tous les chevaliers. Qui veut se battre pour moi ? Et tous les chevaliers ont levé le bras avec l'épée. Nous ! Et Jésus, il a souri, il était content. Et là, il est passé à la deuxième question. Il a dit, et qui ira mourir pour moi ? Et là, moins de chevaliers ont levé la main et l'épée, mais en ayant la vision, j'avais toute l'interprétation du cœur de Jésus. Et je savais que Jésus ne leur en voulait nullement. Il savait qu'ils n'étaient pas prêts, ça n'avait rien à voir avec leur salut, Jésus continuait à les aimer énormément, simplement dans la fin des temps, il y a des gens qui seront prêts à donner leur vie, et d'autres pas encore. Et Dieu nous placera à des places différentes en fonction de du prix que nous sommes prêts à payer. Plusieurs chevaliers se sont retirés et je savais que le Seigneur leur donnait le choix. Et qu'en se retirant, ils ne rejetaient pas Christ pour autant. Et qu'ils seraient quand même utilisés dans la grande bataille, mais à un endroit moins stratégique. Et ensuite, j'ai eu une troisième vision. Vous voyez, je me demandais à une époque comment Rick Joyner il avait ses visions. Jusqu'à ce que j'ai ses visions. Sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, il a eu des visions. C'était un film qui se suivait. C'était le dimanche 2 décembre 07 au matin, dans la voiture. Je pensais complètement à autre chose quand ça m'est apparu comme ça. Et là, je marchais dans un canyon qui menait à un lieu de combat important. J'ai rarement partagé ces visions, même avec mes amis. Mais j'avais un sentiment profond d'abandon et de solitude. J'étais dans un canyon, vous savez, très étroit, là, comme dans lesquels vont les cow-boys. Là. Et j'étais seul dans ce canyon. Et ce canyon donnait sur une étendue, une grande étendue, où je savais que se trouvait un lieu de combat. C'était le lieu de combat de la dernière bataille des derniers temps, dans lequel Dieu allait se glorifier à travers son Église. Et en arrivant finalement à cette clairière, je me suis rendu compte que d'autres guerriers arrivaient à peu près en même temps que moi, chacun en débouchant seul d'un canyon semblable à celui d'où je venais. Est-ce que vous me suivez là ? C'est-à-dire ils connaissaient la même solitude, ils avaient failli connaître le même découragement, et là il m'est venu ce passage de l'Écriture où Élie dit « Je suis resté moi seul !» Et Dieu lui dit « Mais non, t'es pas resté toi seul. Je me suis choisi 5000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » On ne voit pas toujours, quand on se trouve dans l'épreuve, dans certaines situations, que Dieu il est en train de travailler sur la terre entière pour préparer sa grande armée des derniers temps. Et je me rends compte qu'à travers ces séminaires, comme à travers le camp de Michel Allard, je rencontre de ces chevaliers, alléluia, qui sont en route et qui se sont mis en route à la même époque que nous, sans qu'on le sache, avec des ministères complémentaires. Alors peut-être que tu es dans ton canyon là en ce moment, mais tu n'es pas seul. Mais à vue humaine, il semble que tu es seul. Mais à un moment donné, tu vas débaucher sur une grande clairière. Et là, tu vas dire, waouh, on est une grande armée. Vous recevez quelque chose ce soir ?
Amen.
Deux autres passages me sont venus, et je vais terminer avec cela. Jésus dans le jardin de Gethsémani, et Jacob aussi, qui dut combattre seul de nuit avec un ange. Mes amis, vous devez comprendre certaines choses. Il y a des victoires, vous ne les scellerez, si vous voulez vraiment servir Dieu en tant que serviteur de Dieu jusqu'au boutiste. Il y a des forces, des galons, vous ne les obtiendrez dans votre vie que si vous vous battez seul. Il y a des moments où il faudra livrer des combats seuls. Les gens dans l'église ne pourront pas t'aider. Ce pasteur qui a toujours été là pour t'aider, mais il ne peut plus. Cette femme peut-être qui t'a porté, mais elle ne peut plus. Ce gars qui te prêtait 10 euros quand il te manquait 10 euros, il ne peut plus. Et toi tu dis, le diable a agi dans leur cœur, tout le monde m'abandonne. Non, c'est peut-être Dieu qui veut que tu te retrouves seul pour que tu livres ton combat. Ce démon, tu vas devoir le chasser seul. Cette guérison, tu vas devoir l'obtenir seul. Cet argent, le faire venir seul. Et maintenant, ça va être toi qui vas un peu porter ta femme pour changer. Hello ? C'est ça la maturité, c'est pas râler parce qu'on est seul. La maturité, c'est trouver la force dans la solitude, parce que nous ne sommes pas abandonnés. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Amen.
Alors nous devons choisir, on va continuer à se faire porter par les autres pendant 20 ans, ou on va la saisir notre victoire. Alors c'est vrai qu'après on risque de boiter, hein. Jardin dans le... Ben non, Jésus, pardon, dans le jardin de Gethsémani. Jardin, c'était un copain à lui, c'était un autre. Il s'est retrouvé seul, devant un choix. Abandonné de tous. C'est quand même merveilleux parce qu'ils l'ont tous abandonné. Et quand il est ressuscité, et là il a revêtu un corps glorieux, il passe à travers les murs. Wow, ils ont tous dû se dire, maintenant on va passer à régler les comptes. Thomas, il voulait voir pourquoi les trous dans ses mains. Là, il a vu apparaître Jésus. Il a dit, bon, je vais aux toilettes. Il ne faut pas que je sois là. Parce qu'il va régler les comptes. Ça, vous n'avez jamais eu ce sentiment que Jésus, il arrivait et il allait régler quelque chose avec vous? Et puis, c'est tout le contraire. Ah, mais il y en a, ils sont trop spirituels. Vous priez pour moi, etc. On passe par des périodes où on se sent coupable, on doit lutter contre ça. Et on entend la douce voix du Saint-Esprit, là aussi, si on sait discerner la voix du Saint-Esprit, qui nous dit que la paix soit avec vous. Et là, la tension, elle retombe. D'un coup, ils ont dû devenir tout relax. Ah, alors, c'est bon. Et il aurait pu dire à Thomas, tu voulais voir ma main ? Viens, tu vas la voir. Ah ! Imposition des mains. Les cinq ministères avaient la marque. Donc on peut se sentir seul dans sa bulle à certains moments, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien. Oh, que j'aime pas cette expression, chrétien tout court. J'ai honte de moi de l'avoir prononcé. On est tous appelés à servir Dieu. Amen. Mes amis, il y a des gens, il faut que vous arrêtiez de vous considérer comme des chrétiens tout court. C'est vraiment trop court. Vous êtes des serviteurs de Dieu en devenir, avec une destinée glorieuse sur votre vie. Amen. Alléluia. Et quel que soit le canyon à travers lequel vous passez en ce moment, si vous avez pris le temps de venir écouter ce message ce soir, il y a des pépites pour vous qui vont vous permettre de tenir le coup jusqu'à ce que vous débouchiez dans la plaine. Hello? On peut se sentir seul dans sa bulle à certains moments, en tant que serviteur de Dieu jusqu'au boutiste, mais c'est un passage obligé que Jésus lui-même, il a pris. Mais nous ne sommes pas pour autant seuls. Alléluia. Le Seigneur veut développer de plus en plus nos sens spirituels, notre vue dans l'esprit. Et on veut prier ce soir. Élevons nos mains. Seigneur, montre-nous qui nous sommes vraiment. Pourquoi vous n'auriez pas peut-être cette nuit une vision? Dans les jours qui viennent, une vision. Vous voulez vous voir? Vous êtes beaucoup plus beau que ce que vous paraissez, je tiens à vous le dire. Mais montre-nous les autres aussi, montre-nous les gens que j'aime, qui sont autour de moi, chez qui parfois je vois que des défauts. Seigneur, montre-nous qui nous sommes vraiment, montre-nous qui sont les autres, montre-nous bien sûr qui tu es. Que notre regard change sur les choses, sur les gens, sur l'Église et sur nous-mêmes à la suite de ce message. Seigneur, nous te prions ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la sagesse de l'esprit. Nous prions pour le discernement de l'esprit. Nous prions pour la vue dans le monde spirituel. Qu'on ne soit plus étonné quand ça arrive. Parce que ça devient quelque chose de courant. Vous le désirez? Alors prions pour cela. Élevons nos voix. Alléluia. Ils ont eu des miracles parce qu'un jour, ils ont élevé leur voix. Ils ont dit, Seigneur, qu'il se fasse dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ des miracles. Avant, il n'y a pas beaucoup de miracles dans les actes. Et à la suite, on voit qu'il se faisait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres. On a le droit de crier à Dieu ce soir. Vous ne voulez pas crier à Dieu? C'est tellement triste tout ce qu'on voit dans ce monde. On a envie d'avoir une autre vision pour contrebalancer toute cette misère qu'on voit chaque jour. Ouvre nos yeux, comme lorsque tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élie, pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Tu es dans la crainte ce soir? Il y a une situation difficile à la maison? Que Dieu ouvre tes yeux. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il y a ton ex qui te crée des problèmes. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Des gens parlent mal sur toi. La Bible dit que Dieu donne un salaire à ses serviteurs. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi sera réduite au silence. Alléluia. Saisis-toi ce soir. C'est pour toi. Mais ça marche que par la foi. Tu t'en saisis, ça ne vient pas tout seul. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.